There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Poco Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Pot Pourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
CIUT 89.5 FM. La radio communautaire à temps plein, à son meilleur. 24/7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CIUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.ciut.fm. Cliquez sur le bouton Donate pour faire un don et soutenez le son de votre ville. Popourri Show, la seule émission en langue française, compte sur vous.
Excessif des policiers de la ville de Québec sur un jeune adolescent noir. Le policier donne des coups de poing agressifs d'un boxeur, des coups de genoux qu'on voit dans les combats Ultimate MMA et ce gratuitement, tandis que le mineur est déjà à terre maintenu par un autre policier oisif du comportement impulsif et déréglé de l'agresseur en uniforme. Pour satisfaire davantage son ego, le policier en service tente d'obstruer les voies respiratoires de la victime en acheminant volontairement de la neige par son pied gauche au visage du jeune noir. Un autre cas de rage en profilage ethnique.
Dimanche 5 décembre 2021. Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie sur CUT 89,5 FM à la Radio Campus de l'Université de Toronto. Et c'est la 34e saison. L'ingénieur du son DJ Devera, production animation Eric Kader avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et pour écouter nos émissions, où que vous soyez sur la planète, une seule adresse, popourrishow.com. Pour nous joindre, où que vous soyez, popourri@cut.fm. Et CUTFM tient à remercier chaleureusement tous les donatrices, donateurs qui ont contribué au succès et à sa dernière campagne de collecte de fonds automnale. Mille merci. À ce jour, nous avons atteint 80% de notre objectif de 100 000 $. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait encore, alors vous avez encore un peu de temps, nous comptons sur votre aide. Veuillez visiter notre site web www.cut.fm et cliquer sur le bouton Donate Today. Et chaque contribution de $89.50 ou plus vous donne accès automatiquement à notre grand tirage d'un voyage pour deux en Islande. Pays avec une nature sauvage, avec des parcs nationaux, des sites touristiques inscrits au patrimoine de l'UNESCO, des lieux historiques, des lieux magiques pour de l'art, ou un des rares pays au monde où la parité est la mieux respectée. Et oui, faites un don maintenant sur www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate Today. Mille merci. Au menu aujourd'hui, première femme noire, première artiste scénique, résistante pour la France libre, mère de 12 enfants adoptés aux quatre coins du monde, symbole de l'égalité entre les peuples, Joséphine Baker a fait son entrée en grande pompe au Panthéon mardi 30 novembre. Un journaliste afro-américain ancien étudiant à Paris écrit, et je cite, « Donner à Joséphine Baker la tombe d'un héros n'enterrera pas la vérité ». Indignation à Québec et en Ontario à la suite d'une arrestation musclée de jeunes noirs. Et oui, des images captées sur les réseaux sociaux ont choqué le milieu politique, le public en général et les membres de LeaderPoll Canada, un organisme de leadership politique pour les personnes d'ascendance africaine pour une gouvernance canadienne inclusive, a réagi vivement sur cet incident à travers un communiqué de presse. Le magazine L'accent des autres nous transportera au large de Calais avec le drame de naufrage des migrants, Congo Hold Up qui continue, et oui, et Covid-19 à travers le monde. Le chanteur français Alain Bachung a dit de lui qu'il fut l'un des premiers à introduire l'ironie dans la chanson québécoise sur des airs de rock, de blues et de country. Robert Charlebois fait son comeback. Eh oui, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est un job à ne pas rater. Charlebois, juste après le magazine Accent des autres. Quels sont les goûts artistiques, culturels de l'heure de nos auditeurs? Et oui, si on a du temps, on vous fera revivre les temps forts de la 44e édition du Salon du Livre de Montréal qui s'est tenu au Palais des Congrès et qui a pris fin dimanche dernier. La maison d'édition Prise de Parole y était. Collaboration spéciale, la librairie francophone de France Inter. Et suivez les podcasts Quoi de neuf, les cafés du Créfo, le centre de recherche en éducation franco-ontarienne, quoideneuf.ca ou popourichaud.com. Mais pour tout de suite, les buzz de la semaine. Le monde entier en alerte, frontières fermées, quarantaine, tests de dépistage. Partout, les gouvernements resserrent leurs mesures sanitaires face à ce nouveau variant Omicron. Et oui, si vous comptez vous déplacer à l'étranger, je vous recommande fortement de consulter les mises à jour sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca/fr/santé publique. Refonte sur la loi sur les services en français au Canada. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario ont réitéré leur appui à la proposition gouvernementale tout en soumettant 6 recommandations visant à solidifier davantage cette réforme linguistique. Vous retrouverez tous les détails sur notre site popourichaud.com. Ottawa sera plus sévère contre les thérapies visant à changer l'orientation sexuelle. Offrir à une personne homosexuelle une thérapie ayant pour but de la transformer en hétérosexuelle sera bientôt interdit. Le gouvernement fédéral a déposé lundi dernier un nouveau projet de loi plus sévère dans le cadre de son effort visant à interdire les thérapies de conversion au Canada. C'est le grand ménage dans l'armée canadienne. La nouvelle ministre de la Défense, Anita Anand, semble résolue à attaquer de front le problème des inconduites sexuelles. Ottawa s'excusera officiellement des inconduites sexuelles dans l'armée le 13 décembre prochain. Crise sociopolitique en Haïti appelle à la solidarité pour une approche humanitaire du gouvernement canadien. Le silence du Canada pèse lourd. On s'en souvient, fin octobre, notre partenaire, la Fondation Sylvanie Nador, et plusieurs citoyens torontois engagés envers la crise humanitaire en Haïti faisaient parvenir une lettre au ministre fédéral de l'immigration. Le nouveau ministre de l'immigration, Sean Fraser, ne semble pas être sensible à la cause haïtienne. Le gouvernement fédéral a décidé de ce mois-ci de rouvrir le chemin Roxham de Québec emprunté par les migrants, surtout haïtiens, pour passer des États-Unis au Canada et demander le statut de réfugié, un passage à haut risque pour les migrants haïtiens. C'est un article signé Annick Chalifour, chroniqueuse au Journal Express de Toronto que vous retrouverez sur notre site popourichaud.com. Crise aux Antilles, une rencontre qui tourne au fiasco et où des discussions stoppées à peine entamées. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, n'a rencontré que brièvement l'intersyndicale en Guadeloupe et en Martinique lundi et mardi dernier. Le ministre a vivement critiqué les responsables syndicaux qui ont commencé à vouloir chercher des amnisties pour les auteurs de violences. Selon lui, les conditions posées par l'intersyndicale participent à une jonction dangereuse. Il Maurice, une veillée et des manifestations pour dire non aux amendements de l'IBA Act. Le gouvernement de Pravin Jagnauth fonce à grande vitesse pour adopter les amendements afin de réglementer les médias privés. Pour les membres de l'opposition, des artistes, des membres de la plateforme pour la liberté d'expression et les propriétaires de radios privées, c'est le début de la fin des radios privées de la liberté d'expression à l'île Maurice. Le texte a été voté mardi dernier au Parlement. Le 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Et oui, force de constater que la lutte contre le VIH n'a pas connu le même destin que la COVID-19. Et ce, malgré de formidables progrès pour le traiter, il tue encore, malheureusement, 680 000 personnes dans le monde en 2020. Et oui, comment expliquer cet écart ? Et enfin, n'oubliez pas la conférence en mode Zoom de la Société d'Histoire de Toronto en partenariat avec l'Alliance française de Toronto le mercredi 8 décembre à 19h. Le thème, quand technologie et créativité vont de pair, la découvrabilité territoriale. Cette conférence sera en français uniquement. L'ère numérique a changé les habitudes de consommation des auditoires. Et oui, le problème a été nommé. On l'appelle la découvrabilité des contenus. Les membres de Wikiclub Croissant Boréal seront présents pour vous présenter cette conférence, transmettre tout leur savoir et répondre à vos questions. Donc, je vous donne rendez-vous, madame, monsieur, le 8 décembre à 19h. Conférence en ligne. Visitez le site web de l'Alliance française de Toronto ou sht.ca pour Société d'histoire de Toronto ou encore allez tout simplement sur notre site popourichaud.com. Et avant de passer à Robert Charlebois qui n'a pas besoin de présentation, je vous invite à suivre nos collègues des médias francophones publics, une présentation de Radio France Internationale.
Voici, comme chaque semaine, votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité des médias francophones publics. C'est l'accent des autres avec la radio-télévision suisse, France Inter, Radio-Canada, RFI et la RTBF. On va commencer aujourd'hui avec les suites de ce drame de la migration. Cette semaine, au large de Calais, 27 morts. Karine Bécard, c'est à la fois l'émotion et la colère qui dominent après ces nouveaux décès.
Oui, on compte plus de 25 000 traversées depuis le début de l'année et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Jamais la France ne laissera la Manche devenir un cimetière, a réagi immédiatement le président Macron. Il n'empêche, sur place à Calais, les mots sont extrêmement durs contre les autorités. Vous les entendrez.
Le ras-le-bol des policiers en Belgique, Sophie Brems, cela fait 2 semaines qu'ils ont entamé des actions pour demander plus de moyens et de meilleurs salaires.
Les policiers qui demandent aussi des aménagements de fin de carrière à travers des grèves du zèle sur les routes ou dans les aéroports. Les automobilistes et les voyageurs commencent tout doucement à en avoir assez.
Sur le continent africain, retour cette semaine avec vous, Amélie Tullet, sur les nouvelles révélations de la vaste enquête Congo Hold Up.
Une enquête menée en partenariat avec 18 autres médias et 5 ONG sur des millions de dollars d'argent public détournés vers des sociétés liées au camp de l'ancien président congolais Joseph Kabila.
Au Canada, cette fois, les suites de la pandémie, la vaccination des enfants a débuté dans plusieurs provinces, Benoît Audet.
Oui, c'est une nouvelle étape de l'effort de vaccination contre la COVID-19 qui est en cours. Cette fois-ci, on cible les enfants de 5 à 11 ans.
Et puis, 5e vague de COVID en Suisse. Les chiffres sont alarmants, comme dans d'autres pays, mais la Confédération ne durcit pas les mesures, Pierre-Anne Chauffard.
Berne préfère laisser la main aux cantons tout en les alertant sur la nécessité de préparer leurs hôpitaux à affronter le choc.
Et voilà pour le programme de cette semaine. Bienvenue dans l'accent des autres. Combien était-il au départ? Combien était-il à monter sur ce canot gonflable qui n'est jamais arrivé en Angleterre? Les sauveteurs ont retrouvé 27 corps dans la Manche cette semaine à 20 km de Calais. La pire tragédie qu'ait connue la France dans ses eaux territoriales. Parmi les victimes, 7 femmes et sans doute 3 enfants ou adolescents. Les corps des réfugiés naufragés ont été ramenés au port de Calais sous les yeux d'une 50aine de personnes, des habitants envahis par l'émotion et la colère. C'est un reportage de Maureen Suignard, réalisée cette semaine à Calais.
Les visages sont graves, quelques-uns portent des pancartes pour marquer leur indignation. Au sol, des bougies ont été déposées et pendant ce temps, à plusieurs reprises, des véhicules sortent du port de Calais.
On voit des corbillards, c'est des corps, c'est des gens qui sont noyés pour 30 km.
Olivier exprime sa colère, tout comme Sylvia qui habite à 2 pas.
Ça me touche beaucoup, énormément. C'est une honte, et là c'est pire, ce soir c'est pire là.
En déplacement à Calais, Gérald Darmanin assure que les premiers responsables sont les passeurs, mais c'est aussi la politique du ministre de l'Intérieur qui indigne Sylvia.
Le ministre est là, il vient ici, pourquoi faire? Il faut arrêter la violence, il faut arrêter les démantèlements, il faut leur donner une tente, il faut leur laisser leur sac de couchage. On les retient, qu'on les retient dans des bonnes positions alors. Ou alors on met tout le monde dans le bateau une fois par mois, puis on les laisse partir.
Hier soir, Londres et Paris ont convenu de l'urgence à lutter contre les traversées illégales. Il faut des actes et vite, plaide Pierre Roch, le coordinateur de l'association L'Auberge des Migrants.
Il faut surtout du courage politique, en fait. Il faut effectivement que la France et la Grande-Bretagne se mettent autour d'une table et se disent en fait comment on fait pour que les gens n'aient plus à risquer leur vie pour traverser un détroit de 30 km. Une voie de passage légale, en fait.
Plus de 31 000 migrants ont tenté la traversée de la Manche depuis le début de l'année, selon les autorités.
Reportage donc de Maureen Suignard pour France Inter. La police belge en a ras-le-bol. Les policiers fédéraux et locaux ont entamé une série d'actions de protestation il y a bientôt 2 semaines, essentiellement, Sophie, pour des questions de salaire.
Oui, manifestations, barrages filtrants sur les routes, grève du zèle dans les aéroports, ça commence à durer, d'autant que ça se passe aux heures de pointe, à Bruxelles, mais aussi dans d'autres villes du pays, et les automobilistes commencent à en avoir assez.
Ça fait combien de temps, là?
1h30. Une heure et demie, et là,
on a l'arrêt.
Ils sont censés donner le bon exemple et c'est illogique, je trouve.
Le fait qu'ils bloquent la route, c'est un peu emmerdant quand même. C'est pas la bonne manière, je pense.
En tout cas, c'est comme ça qu'ils espèrent se faire entendre. Les policiers demandent plus de moyens. Ils demandent donc des aménagements de fin de carrière et surtout une revalorisation salariale qu'on leur a promis depuis longtemps.
Et on nous avait promis aussi depuis 20 ans de revoir nos échelles barémiques. On nous a promis, puis on a dit non, finalement non, oui, non, oui, non, c'est pareil.
Ah, nous irons clairement jusqu'au finish. S'il faut bloquer les frontières et mettre le pays à plat, on le fera.
Les syndicats en front commun sont manifestement prêts à aller jusqu'au bout. Une réunion s'est tenue en début de semaine avec la ministre de l'Intérieur. Elle n'a rien donné. Les actions se sont donc poursuivies, mais une nouvelle réunion entre les syndicats policiers et la ministre est prévue ce lundi.
Sur le continent africain, à présent, nous vous en donnions les grandes lignes la semaine dernière. Voici les suites de l'enquête baptisée Congo Hold Up, une vaste enquête basée sur l'analyse de millions de documents bancaires qui ont fuité d'une banque africaine, Amélie.
Oui, la BGFI est parmi les nombreuses révélations dans le cadre de cette enquête. Retenons par exemple les fonds prévus pour les élections de 2011 et 2018. RFI et les autres enquêteurs se sont intéressés aux comptes de la commission électorale et à ceux de ses sous-traitants. Ainsi, parmi les sociétés choisies pour acheminer dans tout le pays le matériel électoral, il y a par exemple une société qui s'appelle Moderne Construction. Or, l'analyse de ces comptes pose la question de l'utilisation possible d'une partie de l'argent des élections pour construire les plus grandes tours de Kinshasa, la capitale. Ça, c'est pour 2011. Pour les élections de 2018, selon l'enquête, 3 800 000 dollars au moins ont transité via la BGFI sur les comptes de sociétés appartenant à l'ancien président congolais et à son premier cercle.
Et un nom revient dans les révélations de Congo Hold Up, Amélie, celle de la société Sud Oil.
Oui, Sud Oil, la siphonneuse du premier cercle de Joseph Kabila, titre même l'enquête. Au départ, Sud Oil est une véritable société de distribution de pétrole. Elle connaît une deuxième vie quand la famille Kabila en prend le contrôle. En résumé, elle devient une société fantôme et par le biais de facturation excessive, elle sert à faire transiter de l'argent issu des comptes de la commission électorale ou encore de la banque centrale congolaise. Au total, selon l'enquête Congo Hold Up, 138 millions de dollars d'argent public en RDC vont circuler à travers tout un dédale de sociétés écrans pour brouiller les pistes.
Voilà, Congo Hold Up, donc cette vaste enquête collaborative réalisée par RFI et 18 autres médias, aux côtés également de 5 ONG. Les détails se trouvent bien évidemment sur le site de RFI. On notera par ailleurs que ce sont des révélations pirant qui conduisent aussi en Suisse.
Oui, l'organisation Public Eye qui se bat pour l'amélioration des relations politiques et économiques entre la Suisse et les pays en développement a collaboré à cette vaste enquête. Et la société pétrolière Sud Oil dont vient de nous parler Amélie a, selon ses révélations, déposé 12 millions de dollars sur un compte ouvert chez UBS à Genève en 2013. La grande banque ne commente pas, mais assure respecter strictement les devoirs qui lui incombent dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est désormais lancée un peu partout au Canada, près d'un an après le début de la campagne d'immunisation des personnes les plus à risque. Parmi les provinces qui ont démarré la campagne, il y a le Québec et l'Ontario. Et Benoît, au Québec, les autorités estiment que ça a très bien débuté.
Oui, des dizaines de milliers de rendez-vous ont déjà été réservés et les premières injections ont été administrées. Au total, au Québec seulement, il y a 650 000 enfants âgés de 5 à 11 ans.
Oui, le Canada fait partie des endroits au monde où le taux de vaccination est le plus élevé, mais tout de même, il y a une résistance au vaccin au sein d'une partie de la population. Et on sent, Benoît, que les autorités ne veulent pas mettre trop la pression au sujet de la vaccination des enfants.
Au Québec, du moins, si on encourage fortement les gens à se faire vacciner depuis le début de cette campagne, on sent un discours plus conciliant quand il est question des enfants. Voici le premier ministre du Québec, François Legault.
On ne veut pas là, se retrouver dans une situation où des enfants seraient stigmatisés parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, puis que les autres enfants commencent à dire « ben toi, tu n'as pas été vacciné ». Regardez, là, c'est un choix personnel. Il faut prendre le temps qu'il faut puis se sentir à l'aise.
Selon une étude de l'Institut national de santé publique du Québec, près de 30 % des parents d'enfants de 5 à 11 ans seraient réfractaires à l'idée de les faire vacciner.
Et il ne restera donc qu'une partie de la population vaccinée au Canada, les enfants de moins de 5 ans.
Oui, l'administratrice en chef de la santé publique au Canada, la docteure Teresa Tam, a laissé entendre que le feu vert pourrait être donné au début de 2022. Ce sont donc les enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui pourraient recevoir une première dose.
Oui, et à propos de la vaccination, ça s'accélère aussi en France. Karine, on pousse de plus en plus les personnes majeures à se faire vacciner.
Les choses sont en train de s'accélérer. Tous les adultes de plus de 18 ans, donc, vont devoir recevoir leur troisième dose 5 mois après la seconde, avant le 15 janvier prochain. Sans ce rappel, eh bien, les passes sanitaires des Français seront désactivés.
Et puis, on notera que côté belge, les autorités mettent aussi davantage encore le paquet sur la campagne de vaccination. Plusieurs mesures ont également été annoncées ce vendredi au vu des mauvais chiffres et elles entrent en vigueur dès cette fin de semaine. Pour l'essentiel, fermeture à nouveau des discothèques et fermeture des bars et restaurants à partir de 23h pour réduire les contacts sociaux. Et puis en Suisse, cette fois, les nouvelles contaminations poursuivent aussi leur hausse inexorable. Et pourtant, Pierron, le gouvernement l'a confirmé cette semaine, pas de nouvelles restrictions sanitaires pour l'instant.
En moyenne nationale, la cote d'alerte n'est pas atteinte. Selon la Confédération, c'est au canton d'agir, particulièrement ceux où l'incidence est très élevée en termes de nouvelles contaminations. Cela va en effet du simple au triple selon les régions. Pour la responsable vaudoise de la santé, la retenue de Berne peut se justifier. Rebecca Ruiz.
Il n'y aura pas d'uniformité entre les cantons, mais on est dans des mesures qui, jusqu'à maintenant, ont toujours été un peu différentes, hein, en fonction évidemment aussi des sensibilités, des contextes locaux. Et je pense que ce type de mesures différentes, à ce stade, sont comprises par la population.
Reste qu'une bonne partie des cantons auraient préféré laisser la main à la Confédération pour décréter des mesures impopulaires.
Oui, justement, alors Pierre, de quel ordre sont ces mesures ?
La promotion de la vaccination, encore et toujours, y compris de la troisième dose de rappel qui doit bientôt être élargie aux moins de 65 ans. Et puis le port du masque rétabli dans les écoles ou même à Genève, partout à l'intérieur, en plus du pass sanitaire, comme vous l'avez déjà fait en Belgique.
Donc, pas de fermeture, pas de confinement comme en Autriche.
Non, plutôt un appel à la responsabilité de chacun, respecter les gestes barrières, éviter les bains de foule pour que le système hospitalier puisse faire face. Or, le président de la Confédération a écrit aux cantons pour qu'ils préparent leurs hôpitaux à une explosion des cas et donc planifient un report des opérations non urgentes, car faute de personnel, ce sera compliqué d'augmenter l'offre. Philippe Eckert dirige l'hôpital universitaire vaudois.
On a des équipes fatiguées, certaines épuisées, avec un absentéisme qui fait qu'on ne peut pas ouvrir toutes nos structures. On n'a pas la flexibilité qu'on avait, par exemple, lors de la première vague il y a une année.
Une période d'incertitude donc, où les autorités tentent de prendre les bonnes mesures au bon moment, avec le risque toujours d'intervenir trop tard.
Pierre-Henri Chauffat pour la Radio-Télévision Suisse. Merci à vous et merci à tous les contributeurs. C'était l'actualité des médias francophones publics, l'accent des autres avec les partenaires que sont Radio-Canada, RFI, France Inter, la RTBF et la Radio-Télévision Suisse. On se retrouve bien sûr, comme d'habitude, si vous le souhaitez, la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Ça arrive à manufacture, les deux yeux fermés bien durs. Les culottes pas si pires. En retard, ça dit que ça fait des flats. Ou que le char partait pas. Ça prend tout pour entrer sa carte de punch dans ce slot de la cloche. Ah ouais, drouille doué dans si dépêche. Les deux pieds dans même bottine. Les mains pleines de pouces, les mains dans les poches. Ça joue avec son petit change. Toujours à côté quelque part, ça parle, ça fume, ça mange de la gomme, ça lâche pas, yak et yak. C'est qui a gagné hier au soir? Rousseau parle jamais le poc. Il fait le tour du forum avec, puis il va s'écraser sa bande. Hanover pique-nique dans le troisième, ça cigogne, ça fuck le chien. Maudite pâte molle.
Bye-bye. 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 au nom du conseil d'administration de la radio et de Popourri Show, il me fait plaisir de vous annoncer que nous avons amassé à ce jour 72 000 $ dans le cadre de notre campagne de collecte de fonds automnale 2021. Un grand merci de votre soutien. L'objectif de notre campagne était de 100 000 $. Aidez-nous à atteindre cet objectif. Veuillez visiter notre site web www.cut.fm et cliquez sur le bouton « Donate today ». Et n'oubliez pas de mentionner Popourri Show. Et vous souhaitez être parmi nos partenaires ou collaborateurs? Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Toute l'équipe de la radio vous souhaite de très joyeuses fêtes.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19?
Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Yeah. Moi, je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédor Fondation, Diversity of Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média, Croix Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Encore.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster les histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Écoutez est la plus grande des qualités. Écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom. Nous avons plus que jamais besoin de nous sentir proches des personnes que nous aimons. Le Père Noël portable est de retour et continue de rassembler famille et amis avec de nouvelles vidéos personnalisées et gratuites directement du Pôle Nord.
Ah, bonjour Lucas. Quelle merveilleuse surprise. Tu aimes vraiment les chiens.
personnaliser vos messages et enregistrer des réactions inoubliables qui deviendront vos plus beaux souvenirs.
Oh, regarde, c'est ta maman. Elle t'aime tellement.
Illuminez la vie des enfants que vous aimez en téléchargeant facilement une photo sur notre site web ou nos applications mobiles. Profitez-en gratuitement ou recevez une panoplie de nouveaux messages premium avec notre passe magique. Cette année, certains d'entre nous passeront une nouvelle fois Noël loin de nos proches. Mais tout le village du Père Noël est là pour vous. Le Père Noël portable remplit les cœurs de magie et crée des souvenirs de Noël inoubliables pour tous ceux que vous aimez.
Joyeux Noël!
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
L'arrestation musclée d'un adolescent noir de 17 ans survenue dans la nuit de vendredi à samedi à Québec continue de faire énormément réagir. La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Élie, le service de police de la ville de Québec a lancé une enquête interne sur cette intervention.
Oui, exactement. Une enquête interne, service de police de la ville de Québec. Pourquoi? Ben, en raison des images qui ont circulé énormément sur les réseaux sociaux d'une arrestation musclée. Et ça s'est déroulé ici même, où je me trouve en ce moment. C'est sur Grande Allée, bon, tout juste en face du Dagobert, ces événements qui seraient produits dans la nuit de vendredi à samedi. Et bon, on va pouvoir le voir sur les images. Je vous explique un peu comment ça s'est déroulé, de ce qu'on comprend avec les images. C'est un policier qui aurait projeté au sol un jeune adolescent noir pour ensuite, ce qu'on comprend, lui mettre de la neige au visage à l'aide d'un léger coup de pied. Par la suite, plus tard dans la vidéo, on comprend qu'on voit une jeune noire aussi se faire traîner par les cheveux, littéralement traîner au sol. Et il y a énormément de réactions lors du vidéo des personnes aux alentours. Et vraiment, les événements font réagir plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, entre autres sur Twitter. Hier, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a annoncé que ces images-là étaient troublantes, qu'il fallait faire la lumière sur ces événements-là. Et tout récemment, le premier ministre du Québec, François Legault, lui aussi, a réagi en disant qu'il fallait une enquête. Et justement, le service de police de la Ville de Québec a réagi hier soir pour annoncer qu'il y allait y avoir une enquête. Et vraiment, les événements qui font réagir, c'est entre autres ce coup de pied-là du policier qui envoie de la neige au visage du jeune adolescent noir de seulement 17 ans. Juste entendre là-dessus l'ex-enquêteur à la retraite, Roger Ferland, suivi d'une réaction d'un avocat.
Je vous rassure tout de suite, non, c'est pas une technique qui est enseignée à l'école de police. Par contre, l'école de police enseigne aux gens, vous avez le droit d'utiliser la force et vous avez également des balises qui sont apportées à celle-ci en fonction des articles du code criminel. Et à certains moments, la force devient abusive et même des gestes gratuits ou déplacés n'ont jamais leur place dans aucune intervention.
Ce qu'on voit comme image aujourd'hui, la question est à se poser, quelles sanctions vont avoir les policiers qui vont intervenir dans ces contextes-là? Donc, quelles sanctions va y avoir? Ça va être ça qui va nous indiquer si oui ou non on prend au sérieux l'interdiction de violenter les jeunes enfants.
Donc, l'enquête suit son cours. D'autres personnes, dont Geneviève Guilbeault, qui vient tout juste, elle aussi, de tweeter sa réaction. Et cet après-midi, on va rencontrer justement l'une des deux personnes, la dame qui se serait fait tirer les cheveux pour ensuite se faire traîner au sol. On va la rencontrer dans quelques minutes. Je vous reviens avec plus d'informations là, à 14h.
Popourri Show, CUT 89,5 FM. Le sujet qui fait le buzz cette semaine. Brutalité policière envers des jeunes noirs. Des images troublantes circulent abondamment sur le web depuis samedi dernier. Des images qui troublent la classe politique à Québec. Je me suis approché d'un policier pour expliquer la situation, mais il a sorti son poivre de Cayenne et m'en a jeté dans les yeux. C'est là que ça a dégénéré, soutient Pacifique Niyo Kuizera, le jeune qu'on voit arrêté par des agents de la paix sur la vidéo. Rencontré par le journal de Montréal, le jeune homme de 18 ans raconte qu'il a ensuite été roué de coups par 3 ou 4 policiers, jeté contre une voiture, puis au sol, avant de se faire pousser de la neige au visage. J'ai commencé à crier, mon visage brûlé, se rappelle-t-il. Son œil bouffi et son visage couvert d'ecchymose en témoignent toujours 24 heures plus tard. Une fois dans l'autopatrouille, plusieurs propos désobligeants faisaient référence à son quartier et des sous-entendus concernant les gangs de rue auraient fusé selon son récit. Le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il était troublé par les images qui circulent sur le web. Tous les chefs de partis politiques à Québec, y compris le premier ministre François Legault, parlent d'images insupportables et choquantes. Ils demandent tous que la lumière soit faite sur ces événements. La SPVQ a indiqué qu'une enquête interne avait été déclenchée à la suite de cette intervention. Selon la chef libérale, ce type d'enquête n'est pas suffisante. Elle ajoute que cette intervention soulève la question du profilage racial à Québec. À l'été 2020, le service de police de Québec avait avoué qu'il n'y avait aucun policier noir parmi les 853 agents de l'organisation. En mai 2021, la ville de Québec a annoncé qu'elle déployait un plan d'action pour permettre une meilleure représentation des minorités visibles au sein de son service de police, tout en investissant, tenez-vous bien, 10 millions de dollars pour favoriser la cohésion sociale. Qu'en est-il au juste ? Brutalité policière à Québec, plusieurs associations communautaires, artistes, journalistes, activistes ont monté au créneau pour dénoncer cet événement malheureux qui remet en question la diversité, la cohabitation entre les immigrants et les Québécois de souche pure laine. Des membres de Leaderpol Canada, un organisme de leadership politique pour les personnes d'ascendance africaine, pour une gouvernance canadienne inclusive, a émis un communiqué de presse cette semaine et je cite « Leaderpol condamne avec force une intervention des policiers du SPVQ au Dagobert dans la nuit du 26 au 27 novembre à Québec. Une intervention sauvage et inhumaine. Une classe politique qui s'indigne mais qui ne condamne pas de tels actes s'affirme tactiquement complice. Pacifique Niyokwizera et son ami viennent de vivre un moment effroyable de leur vie qui va sûrement affecter leur estime de soi, leur rapport avec autrui et surtout leur rapport avec les autorités. Leurs amis qui assistaient à sa scène sont traumatisés à vie tandis qu'un policier essaie de les calmer en leur disant de prendre sa relaxe, qu'il n'y avait pas de danger. Cette intervention n'est pas atroce, elle est répugnante, indigne, inhumaine et porte grandement atteinte à l'image du Québec en cette période où on essaie tant bien que mal de bâtir des ponts et un véritable vivre ensemble. Leaderpol condamne avec force cette pratique raciste et inhumaine qui viole dans le fond et sur la forme la Charte canadienne des droits et des libertés. Aucun individu, quelles que soient les circonstances, ne doit être traité de la sorte. Leaderpol joint sa voix à celle des leaders politiques comme Dominique Anglade, qui dénonce et appelle à une enquête indépendante sur cette intervention. Comment peut-on faire confiance au service de police de la ville de Québec à mener une enquête sincère et transparente sur les circonstances de ces arrestations inhumaines? L'imputabilité et la transparence sont de rigueur. Comment expliquer qu'aujourd'hui, en 2021, qu'il n'y a aucun policier noir au sein de cette force policière de Québec? Au-delà de cet enjeu de l'inclusion, de la diversité, c'est aussi l'enjeu de la compétence et de la formation qui s'oppose. Leaderpol invite la ville de Québec et toutes les villes à une réflexion profonde sur ces enjeux afin de prendre définitivement au sérieux les questions de profilage racial, de brutalité policière sur les membres des communautés racialisées. Le ministère de la Justice du Québec a un rôle de premier plan à jouer dans cette affaire afin de rassurer les citoyens de ses engagements en matière de protection et de préservation des droits des citoyens. Tout le Québec ne demande rien de moins que des actions concrètes pour que les choses changent. Signé Bello Manso, président de la Fondation Leaderpol. Vous trouverez copie de cette lettre sur notre site web popourichaud.com. Et je remercie sincèrement tous les membres de la radio, les auditeurs, même des gens du Québec, de Montréal, de Gatineau, d'Ottawa, de Sudbury, qui nous envoyaient de nombreux messages. Et nous avons reçu tout au long de la semaine des commentaires, des messages assez émouvants. Plusieurs auditeurs vivant en Ontario, en ont profité pour dénoncer plusieurs formes de racisme, de discrimination qu'ils vivent, surtout des francophones, de minorités raciales, surtout les personnes d'ascendance africaine. Et merci de nous faire confiance. Malgré notre absence au pays, nous suivons ces dénouements ou les dénouements de cet événement de très près. À bon entendeur, salut.
RFI, toute la diversité du monde.
Les salons du livre sont de retour. Direction Montréal avec nos collègues de France Inter au salon du livre de Montréal. Après une année catastrophique en 2020, deux gros distributeurs étaient au salon du livre de Montréal du 13 au 28 novembre. L'Ontario était bien représenté avec la maison d'édition Prise de Parole et le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Il y en avait pour tous les goûts, des livres et des activités pour les enfants, des livres sur la gastronomie, des rencontres intimistes avec des plumes québécoises, ontariennes, françaises, séances de dédicaces, lectures publiques spontanées, 5 à 7 littéraires dans les commerces. Il faut aussi saluer le comité organisateur qui a fait un véritable travail collectif pour que ces événements si importants soient des lieux sécuritaires. Une des magies du Salon du Livre, renchérit Olivier Goujon, le directeur général du Salon du Livre de Montréal, c'est que des milliers de personnes sont là en même temps pour découvrir des livres ou rencontrer des auteurs. Ces rencontres en présentiel n'ont pas la même résonance, elles sont plus fortes. Allez, sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vous invite à une escapade à la 44e édition du Salon du Livre de Montréal au Palais des Congrès, la fête des bouquins ayant pour thème cette année la rencontre. La librairie francophone animée par Emmanuel Kérad sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone depuis Montréal. Aujourd'hui, nous sommes au Canada à l'occasion du Salon du Livre qui renoue avec le public après une édition 2020 entravée par le Covid. Nous allons vous faire vivre cet événement avec des invités, des découvertes et des moments inattendus. Voici le sommaire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de rejoindre l'effervescence du Palais des Congrès où se déroule le 44e Salon du Livre de Montréal, nous serons en duplex de Genève avec l'auteur de BD Jules pour le nouvel album Disno Good, le célèbre vizir qui voulait devenir calife. Une sortie événement en librairie avec une bande d'auteurs et d'artistes qui signent les 5 histoires de cette BD. Direction ensuite les allées du Salon de Montréal avec le directeur de l'événement Olivier Goujon et 3 personnalités qui sont à l'honneur sur ce salon. Audrey Villemy qui signe un conte étrange en pleine nature québécoise érotisée. La maire de Montréal, Valérie Plante, tout juste réélue, sera avec nous pour une bande dessinée sur sa vie de femme politique au Canada, parue chez XYZ. Et nous serons aussi avec Tristan Malavoie, qui vient d'obtenir le prix France-Québec pour son nouveau roman paru chez Boréal. Enfin, vous entendrez Yann Arthus-Bertrand avec un extrait de son entretien pour la version télé de la librairie francophone. La nouvelle édition est diffusée actuellement sur les chaînes de télévision francophone. Une émission dense et éclectique aujourd'hui depuis Montréal. Je vous présente rapidement les libraires qui sont avec nous cette semaine. Pour la Suisse, c'est Dominique Bressou de la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Bien. Pour la France, cap sur Orléans. Bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez, vous, la librairie Les Temps Modernes. En Belgique, c'est la douce et acide Déborah Damblon, acide parfois, qui est avec nous depuis Bruxelles. Libraire dans la librairie Le Public par Filigrane. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Elle enrage de ne pas être à Montréal avec nous, mais bon, c'est comme ça.
Ouh, viens me le dire.
Un jour peut-être. Et nous rejoindrons tout à l'heure Josiane Letourneau, justement au Salon du Livre de Montréal pour représenter le Canada, bien sûr. Mais avant, un détour par la Suisse à distance, à 5900 km de là, voici un grand vizir de la BD qui a pris la place d'un grand calife disparu.
Je veux devenir calife à la place du calife. Calife à la place du calife. C'est magnifique. Le calife!
Oh, mon beau Isnobile, tu le verras, c'est ainsi.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et nous voici donc en plein Salon du Livre de Montréal pour cette édition 2021 transitoire.
pas d'émission en public en raison de la crise sanitaire, mais nous sommes quand même là, fidèles au poste. Bonjour Olivier Goujon.
Bonjour Emmanuel.
Alors là, on est sur la place centrale, l'Agora. Il y a énormément de public, beaucoup de scolaires aussi. L'année dernière, nous vous avions soutenu à distance. Cette année, c'est quand même mieux, Olivier. On est sur place, même sans le public habituel. Il y a quand même du monde pour découvrir cette édition, qui se déroule dans un nouveau lieu d'ailleurs.
Le Palais des Congrès de Montréal. Effectivement, c'est la première fois en 42 ans que le salon se tient dans un nouveau lieu. On est très fiers de pouvoir accueillir enfin des lecteurs, des lectrices. Vraiment, on est fiers et on est heureux surtout pour tous les artisans du livre.
Alors pour que les auditeurs puissent se faire une idée, Olivier, quels sont les aménagements, quels sont les changements que vous avez opérés pour vous adapter à la situation?
Alors nous avons proposé un salon dans une formule un peu réduite, avec des kiosques allégés. On est revenu à l'essentiel. On s'est dit, en crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à nos valeurs profondes, à notre mission, qui est de promouvoir le livre et la lecture. Donc, on a proposé aux éditeurs une formule qui permettait, éventuellement, si la situation empirait, de pouvoir annuler. Et donc, sans que ça leur coûte trop cher, sans que ça coûte trop cher à tout le monde, les lecteurs sont là au rendez-vous et ils rencontrent leurs auteurs. Alors, ça a été vraiment difficile à faire accoucher, mais tout le monde ensemble a collaboré et on est très fiers de pouvoir accueillir enfin les lecteurs.
Alors, on a tous des masques, hein, c'est important, et les conditions sont respectées, hein, tout le protocole sanitaire est respecté. Le monde du livre a bien tenu, Olivier Goujon, au plus fort de la crise sanitaire. C'est la preuve, ça, de la force culturelle que représente cet outil. Le livre est toujours bel et bien vivant, toujours un produit culturel essentiel, quasiment pour toutes les familles, pour tous les citoyens.
Emmanuel, vous l'avez dit, le livre est un produit culturel. Et moi, je le dis ouvertement, le livre, c'est un objet qu'on acquiert. Il y a un côté commercial, ça permet de s'évader. Le livre est une promesse. Et vous savez, la lecture, c'est un acte intime qu'on fait chez soi, mais on a envie de le partager. Et un salon du livre, c'est un lieu magique pour justement partager la joie de lire.
Bon, merci Olivier. Merci Olivier Goujon. L'édition 2021 du Salon du Livre, c'est ici à Montréal tout le week-end. Yann Arthus-Bertrand dans la version télé de la librairie francophone diffusée ici au Canada sur la chaîne ICI RTV de Radio-Canada. En Suisse, c'est sur RTS2, en Belgique sur RTBF La 3 et partout dans le monde sur les 9 réseaux de TV5 Monde. Prochaine diffusion ce lundi 29 sur ICI RTV et RTS2 et dimanche 5 décembre à midi sur TV5 France, Suisse, Belgique. Le combat pour l'écologie, c'est un sujet qui vous touche, qui vous mobilise aussi, Audrey Villeneuve.
C'est sûr, j'ai plusieurs enfants dans ma vie que puis je veux qu'ils soient le mieux possible. J'ai deux visions de ce sujet, en fait. D'un côté, la transformation nécessaire pour qu'on soit mieux, pour qu'on survive. De l'autre, la force de la nature qui, elle, n'est pas en jeu. Elle va se remettre s'il n'y a plus d'humains. Il a parfaitement raison, c'est notre survie qui est en jeu, pas la survie de la planète qui, elle, va se rééquilibrer sans nous ensuite.
Bon, merci beaucoup. En tout cas, la nature très présente dans vos livres, Audrey Villeneuve, je le rappelle. Merci pour cette intervention ici à la Maison des Libraires, quelque part, parce qu'on est sur le stand du Salon du Livre de Montréal, de la Maison des Libraires. Plie la rivière est paru chez Le Méac. Bon Salon du Livre à Montréal, Audrey.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
Merci. La chronique des libraires. Tout de suite, deuxième partie, avec un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Mais oui, pour Ada reviendra-t-elle, qui est le merveilleux dernier album de la non moins merveilleuse, talentueuse et originale Anne Herbault. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser qu'elle est fabuleuse, puisqu'elle vient d'obtenir le Grand Prix triennal de la communauté française Wallonie-Bruxelles, oui, on est en Belgique, et c'est une artiste qui fait se répondre les mots et les images, qui nous permet de sortir des cases, et ça, ben ça n'a pas de prix.
Quand Ada reviendra-t-elle? Donc d'Anne Herbault, magnifique Anne Herbault, aux éditions Casterman. Merci beaucoup Déborah. Un coup de gueule, dites donc Josiane, ici en plein Salon du Livre de Montréal. Un coup de gueule, sur
oui.
Quoi?
Oui, justement, mais j'en profite pendant qu'on est à la Maison des Libraires pour être solidaire avec mes collègues et parler du fléau du vol à l'étalage. Parce que sur une page Facebook de Libraire, j'ai vu une collègue publier quelque chose et ça me met un peu en furie parce que chaque personne qui pose ce geste-là s'imagine peut-être que c'est un geste isolé, un événement qui n'aura pas de conséquences. Mais en fait, quand on fait des inventaires en librairie, on se rend compte que les pertes sont des milliers de dollars. Alors vraiment, il faut parler de ces choses-là. Il faut que les gens réalisent que ça a un impact. Puis c'est pas non plus comme si notre marchandise n'était pas gratuitement disponible dans quelque chose qu'on appelle une bibliothèque.
C'est vrai.
C'est vrai,
c'est juste. Merci beaucoup, Josiane. Merci d'être venue ici avec nous au Salon du Livre de Montréal. Une édition un peu particulière, mais en tout cas, on l'a fait ensemble.
Je suis très, très contente d'avoir été avec vous ici. Merci à vous.
Merci Josiane. On va partir dans les allées à la rencontre de Tristan Malavoie, prix France-Québec 2021. Et nous irons à deux pas d'ici, à la mairie de Montréal, avec la maire Valérie Plante, tout juste réélue, pour un entretien exclusif. Elle a publié une BD sur sa vie de femme politique et nous parlerons du rayonnement culturel de Montréal dans le monde. Avant cela, voici le dernier titre de la québécoise Clopel Gag dans la librairie francophone. C'était la québécoise Clopel Gag, multiprimée ici au Canada, avec Umami, extrait de son album Notre-Dame des Sept Douleurs, dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
RTBF, la première.
Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec l'artiste guyanais Jayanaï. Voici un extrait de Tax.
Pour nous libres, nous qui payons tax. Toute la journée à tax, full tax. Nous donnons l'argent, nous qui payons tax. Nous déclenquons tax, full tax. Toute la journée, nous qui payons tax. Tout ça, nous besoin, faut payer. Ok, faut payer. Loyer, faut payer. Nous devons pour payer. Aïe, qui cavale, mais a toujours nous y est qu'à veiller. Pétrole à monter, y'a pas de nous fondre, nous qui payer. Tout pas ouais, combien de monde qui l'a carré, dit qu'à débrouiller. Tout qu'à vie, non, l'aïe, quand tout l'homme, tout qu'à débrouiller. Blood, pas vine, maudit, t'as pas essayé. Mon sang, mon cas écrit, tout seul, mais là, t'as l'aime, payer. Nous devons pour payer tax, full tax. Même pour moi, c'est pour mon papa, payer tax. Nous devons pour payer tax, full tax. Mettre pour nous libres, nous devons payer tax. Toute la journée, la tax, full tax. Nous devons nous l'argent, nous devons payer tax. Nous devons claquer tax, full tax. Toute la journée, nous l'avons payé. J'ai fait mon raï, mon poste, mon banquier. Mon système a décidé, prends mon baba. J'ai suivi les bonnes pièces, à méchanceté. Mais c'est le fait qui est café à l'état. Soit disant, y'a pas les gars, y'a n'a fait son système. Mais y'a les mettez mon son, ma que y'a fait un système. Soit disant, y'a pas les gars, y'a n'a fait son système. Mais y'a les mettez mon son, ma que y'a fait un système. Même pour moi, c'est pour mon papa payer clap.
C'était Jayanaï, originaire de la Guyane. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Laurent Baudouin. À la rédaction, Jean-Philippe Véret, ici à Montréal, avec Christophe Magère de France Inter et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, retour en studio, mais le voyage continue bien sûr. Un grand merci à tous les auditeurs français qui font bondir une nouvelle fois l'audience de la librairie francophone, plus que jamais numéro 1, très loin devant la concurrence. Vous avez fait de cette émission le programme consacré aux livres, le plus suivi en France, radio et télé confondus. Merci à tous, au nom de toute l'équipe. Bon week-end et bonne semaine.
même souffle, la même confiance. Les mêmes détours, la même impatience. Je suis comme toi, je suis comme toi. Mon cœur maladroit s'emballe parfois, s'emballe parfois, je suis comme toi. Et on avance ensemble jour à la fois. Le même refrain, la même romance, la même lueur, les mêmes errances. Je suis comme toi, je suis comme toi. J'ai besoin du vide pour trouver ma voie, pour trouver ma voie, je suis comme toi. Et on avance ensemble jour à la fois. Et la tête en éclat. Je suis comme toi, je suis comme
FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Cher Père Noël, autrefois quand j'étais petite, tout était si facile. J'émettais un vœu et tu l'exauçais. Et puis, je suis devenue plus âgée. Et toi aussi. Et tout à coup, les choses n'ont plus été si faciles.
Papa ?
Voilà pourquoi j'ai encore un souhait à t'adresser,
papa.
Cher Père Noël. Passe un test auditif, papa, afin que tout redevienne comme avant. La famille, c'est plus joyeux quand on la comprend.
RFI, la radio mondiale. De Bobigny à Conakry, de Levallois à Tirana, de Pantin à Pékin, la Kora flirte avec le synthé, le Bangra épouse le reggae, les pygmées de gré ou de force se mettent à la techno et rien n'échappe à la radio mondiale. RFI, aux quatre coins du monde, à chaque heure du jour ou de la nuit, des succès d'hier au rythme d'aujourd'hui, chacun sa route, chacun son chemin.
J'ai deux amours, mon pays est Paris. Parle toujours et les amis.
Mon souvent est bien, mais à quoi bon
ceux qui m'en sont servent.
Allez, allez, tout entier. Le vois
un jour, c'est mon rêve joli. Deux amours, mon pays est Paris. Joséphine Baker au Panthéon, c'était un moment magique, moment mémorable mardi dernier. Bon dimanche et bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Et oui, ils sont de Dakar, de Yaoundé, de Lyon, de Fort-de-France, de la ville de Québec, de Gatineau à Ottawa et Port-Louis, l'île Maurice, à Port-au-Prince en Haïti. Bonjour et bienvenue à Poporicho, c'est Toronto, CUT 89,5 FM, 34 ans déjà. Et un bonjour spécial au docteur Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti. Comment allez-vous, cher docteur? Et bonjour Marceline, ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Darnas Taureau, bonjour, ça fait longtemps. Et oui, merci pour votre coup de cœur musical. Coco Rocco du groupe ivoirien Zouglou, avec un message poignant sur le chômage en Afrique. Merci mille fois Darnas. Ce sera juste après le journal d'Haïti et des Amériques, c'est promis. Justice pour Pacifique, le jeune qui s'est fait tabasser par les policiers de la ville de Québec le 27 novembre dernier. Une page GoFundMe est en ligne afin d'amasser des fonds pour sa défense. La communauté noire est outrée par ses gestes répétés et elle se mobilise. Aujourd'hui, c'est Pacifique. Demain, cela peut être vous, votre ami, un proche, votre enfant ou même votre père. Vous retrouverez le lien sur notre site popourichaud.com. Vers 12h35, je vous invite à revivre la cérémonie d'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Et oui, elle est devenue immortelle mardi dernier en devenant la première femme noire à entrer au Panthéon. Mais pour tout de suite, le journal d'Haïti et des Amériques avec nos collègues de RFI et le magazine des Outre-mer.
8h10 en temps universel, 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponche.
Bonjour Anne, merci. Haïti, où les enlèvements se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année. On rejoint Godson Pierre d'Alter Presse à Port-au-Prince. Elle chantait son amour pour Paris et la France. Elle, l'américaine devenue française, Joséphine Baker, entre au Panthéon. Aujourd'hui, on retracera son parcours. Avant de vous retrouver, Benoît Ferrand, le journal de la première ensemble, le ministre des Outre-mer est en Martinique.
Sébastien Lecornu doit en principe entamer le dialogue ce matin avec l'intersyndicale locale. Dialogue qui s'annonce, on le sait, difficile. En Guadeloupe, il n'aura duré en tout et pour tout que 10 minutes.
Rendez-vous, Benoît, dans une quinzaine de minutes. Avant tout cela, je vous emmène à Bridgeton.
Avec une ferme résolution et d'une seule voix, à partir de ce jour et pour toujours, nous déclarons la Barbade République parlementaire.
C'était donc il y a quelques heures, vous l'aurez compris, à la Barbade, la plus orientale des îles des Caraïbes, située à 300 km des côtes du Venezuela. La Barbade qui dit adieu à la couronne britannique après 4 siècles de suggestion et devient ainsi une toute nouvelle république. La reine Elisabeth II perd l'un de ses joyaux. Vive la Barbade.
RFI à Port-au-Prince. 89.3 FM.
On reste dans les Caraïbes avec Godson Pierre en ligne avec nous de la capitale haïtienne. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef de l'agence Alter Presse à la une de votre site et de l'actualité d'Haïti, Godson. Les enlèvements qui se multiplient à l'approche de cette fin d'année, ce qui ne manque pas bien sûr de susciter l'angoisse des familles.
Bien, les kidnappings sont beaucoup plus nombreux à la capitale, y compris dans la zone du Champ de Mars où se trouve le palais présidentiel. C'était le cas hier encore. Les victimes sont des personnes œuvrant dans diverses branches d'activité. Les secteurs éducation, culture et médias sont fortement affectés, tout comme le commerce. C'est ce que confient les proches qui ne cachent pas l'angoisse dans laquelle ils sont plongés. Plus de 800 cas répertoriés depuis le début de l'année. Ces derniers temps, certains jours, on compte pas moins d'une vingtaine d'enlèvements. La libération se fait généralement contre rançon après des négociations ardues. 15 des 17 missionnaires américains et canadiens enlevés depuis le 16 octobre sont toujours séquestrés par le gang 400 Marouzo basé en périphérie nord-est de la capitale.
Et le gouvernement Godson avait annoncé des stratégies pour faire face à ce phénomène des enlèvements et pour le moment, il faut bien le dire, hein, il n'y a pas vraiment de résultats.
Et c'est le Premier ministre de facto lui-même qui parlait la semaine dernière d'une stratégie mise en place par la police, soutenue par l'armée, visant à resserrer les taux autour de certaines zones de non-droit. Ariel Henry disait que cela allait se poursuivre et s'intensifier. De son côté, le chef de la police, Franz LB, avait pour sa part dirigé une réunion de commandement élargi autour de la situation sécuritaire. Il était question de mettre en place un système de sécurité capable de contrecarrer en un temps record la criminalité.
Et puisque les résultats se font attendre, on le rappelle, la société civile Godson elle-même s'est engagée à travailler sur ce dossier.
Eh bien oui, il y a un groupe de travail sur la sécurité qui est composé d'experts en sécurité, certainement en droits humains. Ce sont des membres du secteur privé, du secteur syndical, religieux, du secteur académique, de la diaspora et même d'associations de base de la société civile. Parmi eux, on compte l'ancien directeur général de la police, Mario Andressol. La mission principale du groupe est d'encourager la collaboration entre les citoyens et l'appareil sécuritaire d'Haïti en vue de résoudre le problème de l'insécurité multidimensionnelle et multiforme qui affecte le pays.
Godson Pierre d'Alter Press en ligne avec nous. Merci, on s'intéressera particulièrement demain au cas des femmes enlevées par ces gangs qui terrorisent Haïti.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Ou l'un des symboles de New York séparait les couleurs françaises hier soir. L'Empire State Building et sa pointe en bleu, blanc, rouge hier soir en hommage à la plus française des américaines. Joséphine Baker. Oui, car c'est avec la prononciation française qu'elle voulait que l'on prononce donc son nom. Joséphine Baker, star du musical naturalisé française en 1937. Elle deviendra ce soir la première femme noire à entrer au Panthéon, ce temple des héros de la République française. On revient sur le parcours hors du commun de cette femme extraordinaire avec Isabelle Chenu.
Paris, 1925. Une jeune américaine métisse de 18 ans fait scandale. Elle vient d'être recrutée pour danser dans une revue nègre, dernière mode de ces années folles. Elle s'appelle Joséphine Baker et personne ne la connaît encore. Avec sa danse sauvage, ses cheveux plaqués coupés à la garçonne, ses grimaces de clown et ses tenues légères, elle fait découvrir aux Français le Charleston, le jazz hot et le black bottom. 30 ans plus tard, c'est une star qui se souvient de ses débuts chahutés.
On a commencé à jouer la musique et j'ai commencé à danser. Et il y a des gens qui disaient « assez, remboursé ». Heureusement que je ne comprenais rien. Alors, l'autre côté, il y avait les étudiants, eux, disaient « Oh, c'est merveilleux, bravo, bravo !»
En 1930, la petite fille pauvre, née à Saint-Louis dans le Missouri, est devenue la Vénus noire parisienne. Elle chante pour la première fois au Casino de Paris. Immense triomphe.
J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Joséphine Baker incarne la femme libre, émancipée de cet entre-deux-guerres. Le journaliste et écrivain Jacques Pessis lui a consacré une biographie éditée chez Folio.
Elle vit dans la misère, elle vit dans une baraque en planches. Elle n'a pratiquement pas été élevée par sa mère. Elle a connu tout ce qu'une noire peut connaître à l'époque du Ku Klux Klan. Sa maison a été incendiée, on l'a jetée de partout. Donc elle en profite, elle savoure la vie.
Elle savoure la vie, Joséphine, construit sa légende. Elle épouse Jean Lion en 1937 et obtient la nationalité française. Deux ans plus tard, elle s'engage pour la France libre du général de Gaulle.
Angleterre, Égypte, partout dans le désert, Afrique du Nord, revenant ici, etc., etc. Parce que j'avais qu'une seule chose en tête, aider la France de remontrer comme elle était avant.
La guerre est finie, mais dans les années 50, le combat pour les droits des Noirs dans son pays de naissance, l'Amérique, reste à mener. Jacques Pessis.
On est à New York dans un restaurant qui s'appelle le Stork Club, très célèbre, très sélect, où elle est invitée par un ami blanc. Elle est admise à l'entrée difficilement, et puis à table, elle commande. Et puis curieusement, les plats n'arrivent pas, alors que ceux commandée par son copain, arrive. Et là, elle fait un scandale. Elle appelle la presse, elle appelle son avocat. Finalement, elle va avoir gain de cause. Et les Noirs vont pouvoir entrer dans son restaurant et dans d'autres clubs. Parce qu'il y a aussi ces clubs où elle refuse de chanter si les Noirs ne sont pas admis.
Au lendemain de la guerre, Joséphine a une ambition personnelle. Avec son mari, Jo Bouillon, elle adopte 12 enfants de diverses nationalités.
J'avais voulu faire quelque chose pour prouver au monde entier que si on voulait bien, on pouvait vivre ensemble la fraternité.
Elle installe ainsi sa famille dans un grand château en Dordogne où elle entreprend de construire un véritable site d'attraction touristique.
Elle a vécu dans ce château qui était le rêve de sa vie en dépensant beaucoup plus qu'elle ne gagnait car l'argent, elle n'en avait pas la moindre notion.
En 1968, le château est revendu. La princesse Grace Kelly lui crée une revue à Monaco. Elle remonte sur scène. Le public est au rendez-vous jusqu'au dernier soir. Le 12 avril 1975, Joséphine Baker tire sa dernière révérence, victime d'une attaque cérébrale à 68 ans.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps.
Joséphine Baker, dont le corps restera à Monaco. C'est en fait un tombeau vide qui entrera ce soir au Panthéon, tombeau dans lequel on retrouvera de la terre, des échantillons de terre américaine, parisienne et monégasque. Vous suivrez l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker tout à l'heure sur RFI avec une édition spéciale à partir de 17h30. Lui entre au Panthéon du foot.
Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est... Lionel Messi.
Grande. Lionel Messi, señores. Otra vez.
Lionel Messi, qui s'est vu donc décerner hier soir à Paris son 7e ballon d'or. La photo du footballeur argentin est à la une de tous les journaux du continent, Harry.
Oui, exactement. Et là, on entendait un extrait de la cérémonie, bien sûr, hier au théâtre du Châtelet. Cérémonie retransmise en direct par les télévisions argentines. Et justement, Michael, la presse argentine n'est pas très avare de commentaires. Vous imaginez, Lionel Messi renforce encore plus sa légende dans l'histoire du football, écrit Clarín. Avant de continuer, plus poétiquement, parmi tant d'étoiles, il y en a une qui brille plus que les autres, que toutes les autres. Une récompense bien méritée, estime Olé, car après tout, Messi a contribué à remporter avec l'Argentine cette année la Copa América au Brésil grâce à une finale inoubliable.
Et il a déjà promis qu'il décrocherait l'an prochain un 8e ballon d'or. Merci beaucoup, Harim Lipold.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Michael.
Il est arrivé hier soir en Martinique. Le ministre des Outre-mer va tenter ce matin d'ouvrir le dialogue avec l'intersyndicale locale.
Oui, en principe, en tout cas, car le dialogue s'annonce difficile en Guadeloupe. On le sait, il n'aura duré en tout et pour tout que 10 minutes. En Martinique, d'ailleurs, une première rencontre avec le préfet n'avait duré qu'un peu plus d'une heure. Alors on va tenter aujourd'hui de renouer, comme on dit, les fils du dialogue, mais on le disait, ça ne va pas être simple. Écoutez Magali Zamor, porte-parole de l'intersyndicale de la Martinique, au micro de Pierre-Yves Honoré.
Nous avons pris le temps d'avoir moult réunions, décidé de convenir d'un accord de méthode. Et dans l'accord de méthode, d'ailleurs, le préfet l'a annoncé, la plateforme de revendication doit être traduite en thématique. Et dans la priorisation, la première thématique concerne la santé, la deuxième, la jeunesse, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, que découvrons-nous à l'orée des échanges? Le ministre, qu'est-ce qu'il annonce? Qu'il faut que la loi de la République soit appliquée. Là, il est sorti. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien avec le préfet. Ils ne se sont pas accordés. Nous disons aujourd'hui clairement, et c'est clair et net, il y a un faible taux de vaccinés en Martinique. Il y a une continuité des soins à assurer. D'autant plus qu'on nous parle de 5e vague. Donc avec qui ils vont soigner? Donc aujourd'hui, nous disons, la Martinique dit non. Non au pass, non à l'obligation. Donc il va falloir revoir la copie. Et autant le ministre il est déterminé, autant nous aussi, nous sommes déterminés.
Voilà pour la Martinique. Retour maintenant en Guadeloupe, où, nous le disions, il n'y aura eu qu'un dialogue de sourds entre le ministre, l'intersyndical et le collectif mené par le LKP, notamment parce que l'intersyndical et collectif n'ont pas voulu condamner publiquement les violences contre les forces de l'ordre. Écoutez, le ministre des Outre-mer, c'était hier soir, il était alors en Guadeloupe, avant son départ vers la Martinique.
Il y a un préalable républicain sur lequel on ne peut céder, c'est la condamnation de la violence.
Et je l'ai dit hier au soir, j'ai été surpris de voir apparaître dans les communications de l'intersyndicale une revendication nouvelle, celle qui consistait à amnistier, à suspendre, interrompre les différentes procédures judiciaires engagées contre celles et ceux qui, la nuit, s'en sont pris violemment aux forces de l'ordre, pour le dire clairement, se sont dotés d'armes à feu, de pistolets 9 mm, pour tenter délibérément d'assassiner des militaires de la gendarmerie ou des policiers. Qu'on s'éloigne dangereusement d'un dialogue social ou d'un dialogue syndical, il n'y a pas de point commun entre ce qui se passe la journée et ce qui se passe la nuit. Personne ne pourrait comprendre, à Paris, en Guadeloupe ou en Martinique ou ailleurs, que l'on puisse l'accepter. La nuit, je le redis, et lorsqu'on se précipite sur un scooter et qu'on s'arrête le long d'une portière d'un véhicule de police et qu'on cherche à vider son chargeur dans la tête d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie, ça n'a rien à voir avec un pompier qui n'est pas content parce qu'il y a une obligation vaccinale.
Voilà, Michael, ça ne va pas être simple. On pourrait résumer ça comme ça. Bon après-midi, à demain.
Voilà, vous avez le sens de la formule, Benoît. Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Claude Battista. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Très bonne journée à tous. À l'écoute.
France 24 est la première présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 et la première s'associent pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com.
On peut faire semblant d'être humble, mais on ne peut pas faire semblant d'être reconnaissant. El Cabo! Merci à l'Union. Gauda Salé. Le coq a chanté, cocorico. Le coq a chanté, le jour s'est levé. En bon Burkinabé, on est toujours dans les problèmes. On dort dans le problème, on se réveille dans les soucis. Tableau triste d'une société en décadence. On a toujours dit travailler, payer mouton. On n'a jamais dit travailler, devenir mouton. Mes vrais frères, nous on est mouton. Ce n'est pas notre faute, c'est le système éducatif. Yves Moutourou, beaucoup de diplômes à la fin, il n'y a pas de boulot. L'école nous tue, le système nous enterre. Formation inadéquate, des diplômes inutiles. Tu fais LM pour devenir vigile. Tu fais socio pour devenir marabout. Tu fais le droit pour devenir fakir. Dans le quartier, c'est toi qui anime les grenadiers. Tu fais anglais pour devenir pasteur. Tu fais géographie pour émigrer en Europe. Dans mon pays, si tu as construit, tu as réussi. Mais l'une bien, ce qui explique la grande misère des fonctionnaires. Il se bat tout du vide pour pouvoir construire ce maison. Tu n'as pas construit, tu n'iras pas au paradis. Mais bien plaisant, tu n'as pas construit, ça se lit sur ton visage. Arrivé au feu, on te regarde bizarrement. C'est toi qui n'as pas chez toi, c'est toi qui roules en voiture. En ce qui me concerne, j'ai déjà raté ma vie. Tout mon espoir, c'est mon petit Nolouti. Mon lopin de terre pour avoir un peu de dignité. Chef de là, quand tu vois un grand frère qui maigrit à Ouagadougou, chef sacré, c'est qu'il a commencé à construire. Chef Il Boudo, il commence à boire la bière à crédit. Il abandonne même sa moto, il marche à pied. Farmale, la grande famille de Ouagaga, de Ouagadé. Une vie meilleure, ça va aller. Adelénéa, ça va aller. Mon frère Ito, Alira Massé.
Bruxelles, ça va aller. Au Maroc, ça va aller. À l'île de France, au commandant Papus, ça va aller. Soit qui pas qui, oh, eh. L'autre qui passe, on est pour tout, à la nage, ça va aller. L'enfant gardé, ça va aller. L'enfant qui boit, ça va aller, n'est que même mon diplomate, et puis mon frère, ça va aller. Merci autorité, ça va aller.
Événement. Les meilleurs sons de la planète Afrique vont vous faire vibrer sur TV5 Monde.
Platine Africa.
Platine Africa.
C'est parti.
Un nouveau rendez-vous musical incontournable.
Sucré, pimenté, rien que pour vous.
Caraïbes, Amérique, Afrique. Sur scène, les plus grands artistes et les nouveaux talents, orchestrés par la chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkake. Platine Africa, gardez le tempo sur TV5 Monde.
Découvrez Radio Player France. Radio Player, c'est une nouvelle façon de penser, de consommer et d'aimer la radio. C'est une application qui réunit le meilleur des radios françaises, des web radios et des podcasts. C'est un projet commun réunissant les six principaux groupes de radios françaises. Altis Media, Lagardère News, les Indé Radio, les radios du groupe M6, Énergie Group et Radio France. Mais c'est surtout une ouverture pour tous, avec un contenu énorme, complet et entièrement gratuit. Avec des offres localisées et un modèle prédictif basé sur l'écoute des auditeurs. C'est pour tous les usages, partout et à tout moment. C'est sur tous les supports. Smartphone, ordinateur, enceinte connectée et assistants vocaux, Smart TV et voiture. Avec en plus une qualité de son inégalée. Radio Player France, l'appli de toutes les radios, gratuite et accessible à tous.
34 years strong. CIUT, the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi continuer de se protéger après avoir été vacciné contre la COVID-19?
Même quand un vaccin est déclaré très efficace, il ne protège pas à 100%. Plusieurs mois vont être nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population. Pour ces raisons-là, la distanciation physique de 2 mètres, le port du masque et le lavage fréquent des mains sont des habitudes à conserver.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Potpourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Potpourri Show, le magazine de la francophonie. L'émission phare sur CUT-FM. Chaque dimanche de 11h à 13h en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO. Le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto. La chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo. Les éditions Prise de parole. EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Éric Zemmour, candidat pour sauver la France. Pour se déclarer candidat, Zemmour choisit une musique anti-française de Beethoven. Toute une mise en scène. Alors qu'il s'est officiellement déclaré mardi 30 novembre candidat à la présidentielle, l'essayiste défenseur d'une révolution conservatrice, Éric Zemmour, fait face à un premier couac. Sa vidéo d'annonce pourrait être illégale. Un accro alors qu'un sondage paru ce même jour le donne en baisse dans les intentions de vote. Plusieurs Français pro-Zemmour de la région de Toronto ont des questions à Éric Zemmour. Comptez-vous revenir sur les lois interdisant le sexisme, le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes en général? Allez-vous abolir le mariage du même sexe? Reviendrez-vous sur l'allongement du congé paternité à un mois décidé par Emmanuel Macron? Et enfin, êtes-vous pour le retour de la non-mixité à l'école? En voici un extrait des réponses d'Éric Zemmour.
Ce que vous, visiblement, vous pouvez souhaiter. Pour ou contre l'interdiction des signes religieux dans l'espace public?
Pour.
Comme a proposé Marine Le Pen. Est-ce que c'est l'interdiction du port du voile pour les mineurs? Et pour tous les signes religieux qui pas voile dans l'espace public,
la laïcité,
pour tout le monde.
On parle tout le temps. C'est la liberté religieuse, c'est la tolérance, c'est la discrétion de l'État et c'est surtout la discrétion des gens. Alors, donc dans l'espace public, il n'y a pas de signes religieux ostentatoires qui voilà, c'est tout.
On changerait de société si vous étiez président de la République parce que cette liberté là, elle serait enlevée aux gens, vous l'assumez.
On changerait pas de société, on reviendrait à une société qui fonctionnait beaucoup mieux. Moi, j'ai connu dans mon enfance, excusez-moi, une société où il y a, mais c'est pas une liberté que d'imposer. Vous savez, jadis, Jean-Luc Mélenchon, il a changé d'avis depuis, avait une très jolie formule. Il disait, le voile islamique, c'est de l'auto-stigmatisation des femmes qui ensuite se plaignent d'être stigmatisées. Il parlait d'or.
Je poursuis. Pour ou contre, parce que vous avez parlé, on le sait, des prénoms, ça vous est attaché maintenant. Il faut avoir un premier prénom qui soit français. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction du port de vêtements dits ethniques, par exemple, Éric Zemmour? Puisque vous dites que l'assimilation, ça passe par les mœurs.
À Rome, fait comme les Romains.
Donc, par exemple, on ne peut pas avoir un boubou africain, on ne peut pas avoir une djellaba dans l'espace public aujourd'hui. Un boubou africain, c'est pas possible.
Je ne vais pas aller à la police des vêtements à ce point. Je pense que c'est déplacé, oui. En France,
c'est déplacé.
Comme les Français.
Ça ne peut pas être une singularité, une volonté personnelle de
vous
se
savez,
différencier.
Il faudrait aller un peu plus profondément dans votre remarque. Parce que c'est justement tout le génie de l'islam et des propagateurs de l'islam que d'avoir utilisé votre réflexion, c'est-à-dire le respect de la singularité individuelle, pour imposer une religion qui est une religion totalitaire et qui méprise l'individu et la liberté individuelle.
L'islam est une religion totalitaire.
Absolument. L'islam est. Vous savez, j'ai le temps de répondre. Le grand Ernest Renan, en 1883, dans une conférence sur l'islamisme et la science, disait exactement ceci. Si vous me permettez, je vais la citer entièrement. L'islam est l'union indiscernable entre le temporel et le spirituel. C'est le règne d'un dogme. C'est les plus lourdes chaînes qu'on est mise au pied de l'humanité.
Alors, c'est dit, je poursuis. Pour ou contre, revenir sur le mariage pour tous?
Je pense que le mariage pour tous a été une erreur. Je maintiens qu'il a été une erreur car il a ouvert la boîte de Pandore. Il a
mais vous le maintenez
parodié le mariage. je ne vais pas démarier les gens. Ce serait ridicule.
Mais c'est-à-dire vous, mais
en
vous
revanche, arrêtez. En revanche, je vais absolument, j'aimerais qu'on arrête avec, la, par exemple, la PMA sans père, qu'on arrête
donc
de favoriser la GPA.
La PMA,
on va bloquer tout ça.
Mais vous supprimez le mariage pour tous. Est-ce qu'on pourra
se marier? Je ne vais pas démarier les gens.
Mais est-ce qu'ils pourront se marier, ceux qui ne sont pas mariés, les couples homosexuels?
Écoutez, pour l'instant, oui, on verra.
On verra, pas sûr. Non. Pas sûr.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Avant Beyoncé, avant Whitney Houston, la première icône noire, c'est Josephine Baker. Josephine Baker, première icône noire. Elle danse depuis toute petite. Elle fait rire aussi les enfants avec ses grimaces. Mais Josephine Baker n'a qu'une envie, quitter les États-Unis, quitter la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Son rêve, c'est Paris. Paris où il n'y a pas de séparation. Mais au début, c'est pas vraiment la vie en rose. On propose à Josephine Baker de danser pratiquement nue. Elle refuse longtemps, puis accepte finalement de jouer le jeu. C'est de là que vient cette image de Josephine Baker avec sa ceinture de banane. Franchement, c'est complètement raciste. De danseuse exotique, c'est le terme de l'époque, Josephine Baker devient une star. Le public est conquis par son énergie, par sa façon de danser librement, par sa façon de chanter aussi, avec notamment cette chanson que tout le monde connaît, J'ai deux amours. J'ai deux amours. Enfin, vous voyez quoi. Josephine Baker est connue dans le monde entier. Elle a des poupées à son effigie, elle a des produits de beauté à son nom, elle fait du cinéma notamment et joue avec Jean Gabin. Comme toutes les stars, Josephine Baker fait des caprices. Elle a notamment ce guépard, Chiquita, qu'elle emmène partout. La scène, elle ne la quitte pas vraiment. Elle fait ses adieux, revient, refait ses adieux, enchaîne les tournées, surtout aussi pour payer ses dettes.
Si mon village pourrait servir un jour de village.
À 69 ans, Josephine Baker remonte sur scène une toute dernière fois. Un spectacle à Paris, à Bobino, pour raconter ses 50 ans de carrière.
Quel effet ça fait de remonter sur la scène?
Bien, agréable. De pouvoir retrouver la famille. La famille pour moi, c'est tout le monde et surtout le public qui m'a fait.
C'est un triomphe, le public l'acclame. Josephine Baker enchaîne les représentations, mais elle vit aussi ses derniers instants. Elle meurt quelques jours plus tard des suites d'une attaque cérébrale.
Josephine Baker au Panthéon, une cérémonie toute en couleurs.
Oh,
46 ans après sa mort en 1975, Josephine Baker revient en pleine lumière un mardi 30 novembre 2021 en entrant au Panthéon pour y rejoindre les grandes figures françaises grâce à sa vie extraordinaire d'artiste de musical, de résistante et de militante antiraciste. J'ai même vu une passante qui a revêtu une ceinture de banane pour rendre hommage à Josephine Baker en référence au costume de scène qu'elle a dû arborer lors d'un de ses spectacles Folies Bergères. Dans la foule, pancarte faisait référence à la couleur de peau de Joséphine Baker. Beaucoup de jeunes, de personnalités, des artistes, le prince Albert de Monaco et tous les enfants adoptés de Joséphine Baker étaient présents. Beaucoup de références sur son pays d'origine, les États-Unis. La projection d'un portrait géant de Martin Luther King rappelle l'engagement de Joséphine Baker pour les droits civiques aux États-Unis. Vous entrez dans ce panthéon où s'engouffre avec vous un vent de fantaisie et d'audace. Pour la première fois ici, une certaine idée de la liberté et de la fête, a dit Emmanuel Macron. Vous entrez dans ce panthéon parce que née américaine, il n'y a pas plus française que vous. Joséphine Baker incarne la culture française, une citoyenne qui ne s'est pas compromise avec l'occupant. Elle est franco-américaine et populaire. Son atout, c'est qu'elle fédère. Peu de personnalités de l'époque ont eu ces atouts. Avec des discours simples, nourris de ses propres expériences et de ses intuitions, fortes de sa notoriété et de la sympathie que le public a pour elle, elle délivre sans cesse des messages de tolérance. La France est un beau pays avec une riche culture, toute une histoire, mais malheureusement le racisme, la discrimination font beaucoup de ravages, de victimes, et même aujourd'hui. Selon plusieurs étudiants et immigrants que j'ai rencontrés, c'est une d'ascendance africaine ou antillaise. Le 28 décembre 1953, elle intervient lors d'une réunion publique de la LICRA à Paris et déclare « Je combats la discrimination raciale, religieuse et sociale n'importe où je la trouve, car je suis profondément contre et je ne puis rester insensible au malheur de celui qui ne peut pas se défendre dans ce domaine, même si je la trouve en France. » Du reste, je suis navré d'être obligé de combattre, car à l'époque où nous vivons, de telles situations ne devraient pas exister. Sans plus tarder, madame, monsieur, je vous invite à revivre les temps forts, des moments forts de cette cérémonie. C'était mardi dernier, le 30 novembre 2021, journée mémorable. Montage et reportage de nos médias partenaires.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Mes deux amours, ma pays et Paris.
Vous entendez à l'instant Joséphine Baker, puisque je crois qu'elle souhaitait qu'on prononce son nom de famille à la française d'ailleurs. Et on en parle, puisque c'est un sujet qui habituellement nous permettrait de prendre de la hauteur, mais qui revient sur le devant de la scène, puisque Joséphine Baker sera intronisée demain au Panthéon. Et on en parle avec Charles Onana, qui a publié Joséphine Baker contre Hitler, la star noire de la France libre aux éditions Dubois-Riis. Bonjour Charles Onana.
Oui, bonjour.
Alors, écoutez, un livre bouleversant sur une femme bouleversante. Parce que Joséphine Baker, je vais prononcer Baker moi, parce que bon, voilà, c'est mon conditionnement américanophile, non. Je veux dire par là que c'est une femme fabuleuse. Et justement, Charles Onana, vous avez fait un livre passionnant, parce que vous êtes le premier, même le dire, à parler de ce qui s'est passé avec elle, avec la résistance, la guerre. Et d'ailleurs, votre livre s'appelle « Joséphine Baker contre Hitler, la star noire de la France libre ». Et c'est vraiment ça, cette femme a pris tous les risques, a pris toutes les aventures, et attention, c'était pas les risques de parole, c'était pas le ministère de la parole, elle a fait. Et donc, racontez-nous cette femme quand même, racontez-nous d'abord, parce que qui était cette femme?
Alors, Joséphine Baker était une jeune afro-américaine qui est née à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1906, qui a vécu dans la misère, hein, la plus dure, qui a connu la violence de la société américaine dans sa phase ségrégationniste, et qui a connu également la pauvreté du fait de la ségrégation également.
Mais la famille était très 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 pauvre.
Enfin, la famille était très très pauvre. Le père faisait des petits boulots, la mère était femme de ménage, etc. Donc c'était très difficile de joindre les deux bouts. Et pour Joséphine Baker, qui grandit dans cet environnement où règne la ségrégation, la violence et la misère, il faut trouver un échappatoire, et le seul échappatoire pour elle, c'est quand même la danse et la musique, c'est le milieu artistique. Et c'est comme ça que progressivement, elle va commencer à danser dans des cabarets au sud des États-Unis, jusqu'à ce que le premier rayon de lumière l'amène à Paris.
Et alors, comment justement, elle arrive à Paris en 1925,
exactement,
avec la Revue Nègre, la
fameuse. Exactement, parce que effectivement, il y avait un besoin de revitaliser un peu cette revue à Paris, et Joséphine Baker fait partie des jeunes, des très jeunes qu'on va recruter aux États-Unis.
Oui, elle a 20 ans donc.
Oui, elle a quasiment 20 ans. Elle finit entre 16 et 17 ans. Elle est effectivement aux États-Unis, mais elle pense que sa vie va s'arrêter dans les cabarets, et même si elle est très ambitieuse déjà, elle veut aller jouer à New York, elle veut s'émanciper, elle veut sortir du ghetto. Ouais. C'est vraiment son aspiration la plus profonde. Et bien, cette perche est donc tendue quand elle arrive à la Revue Nègre à Paris. Et évidemment, ça va être le début d'une grande histoire d'amour avec Paris, où pour la première fois, oui, avec la France, où elle se retrouve quand elle entre dans un restaurant, elle ne voit pas de plaque interdite aux nègres, comme on disait aux États-Unis, interdit aux noirs d'entrer. Elle voit que les blancs et les noirs sont mélangés, il n'y a pas de problème à Paris. Et pour elle, c'est du jamais vu, ça n'existait pas.
Elle dit d'ailleurs, je crois qu'il dit dans votre livre, elle dit d'ailleurs, mais quand je suis descendu du train, on m'a pris la main, enfin,
oui, on l'accueille, on prend ses bagages, elle ne comprend pas, elle a l'impression de vivre dans une autre planète, et évidemment la Revue Nègre est montée, elle a cette opportunité de commencer à faire du Charleston à Paris, avec, elle retrouve évidemment aussi d'autres Afro-Américains qui avaient quitté les États-Unis, qui sont retrouvés à Paris, c'est le monde des artistes, des écrivains,
Les Baldwin, les Richard White,
etc. Donc c'est vraiment, elle retrouve en quelque sorte d'autres Afro-Américains, et qui sont tous dans une phase, je dirais, rayonnante dans leur art, hein, que ce soit Richard White comme écrivain, etc. Donc pour elle, elle a fait un saut vers la Terre promise, si on peut dire ça. C'est-à-dire que pour elle, Paris à ce moment-là, c'est un peu la Terre promise par rapport à Saint-Louis. Et c'est ça. Et donc, on ne comprendra pas l'attachement de Joséphine Baker avec Paris si on ne comprend pas d'où elle part, du Missouri, et quand elle arrive, c'est deux mondes qui, en fait, ne peuvent pas se côtoyer, Saint-Louis et Paris. Et
on va en parler, c'est l'ouverture, c'est la libération, on va en parler avec Charles Onana, beaucoup, longtemps, et après les informations, à tout de suite.
Et que vous connaissiez cette histoire ou non, on continue de la raconter, vous nous appelez au 0826-300-300, vous aurez la parole dans un instant, puis vous pouvez également réagir aux autres sujets, cette journaliste agressée à Marseille par des antifas, ou encore la venue de Jean-Pierre Fabre-Bernadac.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Appelez maintenant. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Une femme noire, une femme libre, une artiste, une résistante. 46 ans après sa mort, Joséphine Baker entre au Panthéon.
Impressionnante cérémonie tout en son et lumière. Cérémonie qui vient d'ailleurs tout juste de se terminer en présence de nombreux spectateurs, de 10 de ses 12 enfants. Le chef de l'État Emmanuel Macron vient il y a quelques minutes de finir son discours. Petit résumé avec vous, Laure d'Autriche.
Oui, il y avait d'abord cette image marquante sur un tapis rouge, alors que le cercueil rejoint lentement le Panthéon. Au même moment, sa vie est racontée en musique, et sur l'immense façade du Panthéon, les différents visages de Joséphine Baker se succèdent. L'artiste, la meneuse de revue, la résistante qui cachait des messages dans ses partitions, l'amoureuse de la liberté. Sur la place du Panthéon retentit sa chanson la plus emblématique, « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». Elle avait dit, Joséphine Baker, « La la France n'est pas mon pays d'adoption, c'est mon pays tout court. Dans son discours, Emmanuel Macron dit qu'elle avait, en tant que femme, endossé les stéréotypes et qu'elle les avait bousculés en tant que femme noire. Il dit aussi qu'il n'y a pas plus française que Joséphine Baker.
Ce soir, Joséphine Baker entre ici avec tous ses artistes qui l'accompagnent. Tous ces artistes qui ont aimé le jazz, la danse, le cubisme, la musique, la liberté de ces années. Elle entre ici avec tous ceux qui, comme elle, ont vu dans la France une terre à vivre, qui l'ont aimée et l'aiment charnellement, qui l'ont vue trébucher, qui l'ont vue à terre et se sont battus pour la relever.
Alors il y a dans le cercueil non pas la dépouille de l'artiste, mais de la terre, des quatre lieux qui résument sa vie, Saint-Louis dans le Missouri où elle est née, la Dordogne où elle a vécu plus de 30 ans, Paris et Monaco où elle repose au cimetière. Le cercueil va être veillé toute la nuit maintenant par la garde républicaine et il descendra dans la crypte demain matin.
Lors d'Autriche en direct du Panthéon pour Europe 1 et de l'autre côté de l'Atlantique à New York, l'Empire State Building est illuminé de bleu, blanc, rouge pour honorer la star américaine.
Eh oui, petit air de Noël dans les Barbades, qui est devenu désormais une république. Eh oui, cette semaine, tout un événement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage intercontinental. Des petites brèves, la crise sociale en Guadeloupe persiste. Rendez-vous manqué entre Sébastien Lecornu et les syndicats. Élus et ministres se parlent désormais à distance. En Martinique, le calme est revenu. Un chemin de sortie de solution est possible car il y a une condamnation unanime des violences. Toujours en Martinique, 529 nouveaux cas de Covid-19, des données à interpréter avec prudence, nous dit-on. En Tunisie, Tunisair annonce la suspension de tous ses vols avec le Maroc. Le français n'a pas la cote au Cameroun. Et oui, on apprend le chinois. Car par goût et dans l'espoir de booster sa carrière. Et à l'île Maurice, plusieurs personnalités politiques et même le père Jean-Maurice Labour, administrateur du diocèse de Port-Louis, dénoncent les amendements de l'Independent Broadcasting Authority Act, la nouvelle loi, une plainte constitutionnelle en préparation par les membres de l'opposition et les radios privées. Bientôt à l'antenne, Montréal, l'Eldorado des expatriés français. Est-ce que c'est vrai? Et enfin, n'oubliez pas la conférence en mode Zoom de la Société d'Histoire de Toronto en partenariat avec l'Alliance française de Toronto. C'est prévu pour le mercredi 8 décembre à 19h. À ne pas rater le thème « Quand technologie et créativité vont de pair, la découvrabilité territoriale ». Les membres du Wiki Club Croissant Boréal seront présents pour vous transmettre tout leur savoir et répondre à vos questions. 8 décembre à 19h, conférence en ligne. Visitez le site de l'Alliance française de Toronto. Très important pour recevoir le lien Zoom ou encore aller sur le site de la Société d'Histoire de Toronto, sht.ca, ou visiter tout simplement popurichaud.com. Merci à DJ Devera, nos médias partenaires d'Arnas Taurou et les nombreux producteurs et artistes. Un bonjour chaleureux à monsieur Jean Jubenot qui nous écoute peut-être. Et oui, je remercie tous ces producteurs, ces artistes qui continuent à nous partager leurs œuvres, leurs nouveautés. Alors, je vous souhaite bon dimanche, bonne semaine. Prenez soin de vous, que la force soit avec vous. Je vous laisse avec une chanson classée numéro 1 lors du concours Découverte RFI dans les années 80 en Afrique. Et oui, Zao, ancien combattant, le titre de cette chanson. Zao naît Casimir Zoba le 24 mars 1953 à Goma, Tsetse, République du Congo. Un artiste congolais, auteur, compositeur, musicien, chanteur en lingala, lari et français, dont l'œuvre se caractérise par des textes engagés abordant souvent des sujets tabous dans la société congolaise sur un ton humoristique. Allez, joyeuses fêtes. Ciao, ciao, ciao.
Maque le pas, ancien combattant, Unasuki. Maque le pas, ancien combattant, Unasuki. Maque le pas, ancien combattant, Unasuki. Maque que les pas, ancien combattant.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de fusil. Avec le coup de matraque, tout à coup, patatras, cadavère. Le peuple, cadavère. Les militaires, cadavère. Les rois, cadavère. Les reines, cadavère. Tous les présidents, cadavère. Les ministres, cadavère. Tout le monde est cadavère. Et moi-même, cadavère. Marque le pas, c'est combattant, on a sauté. Marque le pas, c'est combattant, on a sauté. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand viendra la guerre, tout le monde est affamé, oh. Quand viendra la guerre, tous nos enfants affamés, oh. Le coq ne va plus le coquer, coucourico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Tout le monde ne va plus le footer, pousser le ballon. Cadavère, les joueurs, cadavère. Les équipes, cadavère. La radio, cadavère. La télévision, cadavère. Les stades, cadavère. Les arbitres, cadavère. Les supporters, cadavère. Ta femme, cadavère. Le premier bureau, cadavère. Le deuxième bureau, cadavère. Mes bœufs, cadavère. Mes moutons, cadavère. Mon chien cadavère, mon chat cadavère, tout le monde est cadavère, et moi-même cadavère.
Ce combattant,
on a sauté,
marque le pas, un, combattant,
on a sauté,
marque le pas, un, combattant,
on a sauté,
marque le pas, un, combattant,
on a sauté. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les patriotes, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les gaz, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les scouts, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand tombera la bombe, tout le monde est bombé, oh.
Cadavère, ton pays, cadavère.
La France, cadavère.
L'Italie, cadavère.
L'URSS, cadavère.
Les États-Unis,
cadavère.
L'Allemagne,
cadavère.
Les enfants,
cadavère.
Tout le monde est
cadavère.
Suivez l'amour et non la guerre, mes amis. Tenons-nous la main dans la main. Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes. Tenons-nous la main dans la main. Si tu voyais français, bonjour.
Bonjour.
Si tu voyais anglais, good morning. Marque le pas, un, deux, ancien combattant,
on a sauté.
Marque le pas, un, deux, ancien combattant,
on a sauté.
Marque le pas, un, deux, ancien combattant,
on a sauté.
Marque le pas, un, deux, ancien combattant,
on a sauté. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de fusil. Avec le coup de matraque, tout à coup, patatras,
cadavère. Le peuple, cadavère. Les militaires, cadavère. Les rois, cadavère.
Les reines, cadavère.
Tous les présidents, cadavère.
Les ministres, cadavère.
Tout le monde est
cadavère.
Et moi-même, cadavère. Marque le pas, un, deux, combattant,
on a sauté.
Marque le pas, un, deux, combattant,
on a sauté. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.
quand viendra la guerre, tout le monde affamé, oh. Quand viendra la guerre, tous nos enfants affamés, oh. Le coq ne va plus coquer pour porico. La poule ne va plus pouler les œufs. Le footballeur ne va plus footer, pousser les ballons. Tout le monde ne va plus footer, pousser le ballon. Gadaver, les joueurs, gadaver, les équipes, gadaver, la radio, gadaver, la télévision, gadaver, les stades, gadaver, les arbitres, gadaver, les supporters, gadaver, ta femme, gadaver, ton premier bureau, gadaver, deuxième bureau, gadaver, mes bœufs, gadaver, mes moutons, gadaver, mon chien, gadaver, mon chat, gadaver, tout le monde est gadaver, et moi-même, gadaver. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les patriotes, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les gaz, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les scouts, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand tombera la bombe, tout le monde est bombé, oh. Cadaver, ton pays, cadaver. La France, cadaver. L'Italie, cadaver. L'URSS, cadaver. Les États-Unis, cadaver. L'Allemagne, cadaver. Les enfants, cadaver. Tout le monde est cadaver.